Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en ce samedi pour une nouvelle étoile sur les antennes de Radio Capi. Nous recevons aujourd'hui une femme qui brille dans les domaines des sciences et des mathématiques. Elle est directrice de l'ASBL Investing in People et chef UTA du projet PECPSU de l'EPSP, professeure des sciences et mathématiques. Nous avons cité Raïssa Malou qui est avec nous dans ce studio. Bonjour. Est-ce que ça ne fait pas trop de titres pour une femme?
Mais c'est en plusieurs étapes dans une vie.
Enfin,
quoique ici, directrice, enfin, quoique c'est vrai que là, maintenant, je les cumule, mais ça va, j'arrive à gérer.
Vous arrivez à gérer.
Ouais.
Parce qu'en plus, vous êtes mère de famille. Comment on fait tout ça?
Eh bien, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de sacrifices aussi, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas toujours facile, mais ce qui me motive, c'est parce que j'aime, voilà, chacune de ces choses que je fais, je les aime, et donc à ce moment-là, je me donne à fond pour y arriver.
Ça fait un ensemble, et c'est vous, Raïssa
voilà,
Malou.
Tout
le plaisir est pour nous de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois que vous passez sur les antennes de Radio Capi. Alors, vous êtes née à Kinshasa, vous avez grandi ici, vous avez
Absolument.
Fait vos études primaires et secondaires, une partie du moins, une grande partie, ici à Kinshasa. Vous avez étudié au Mont Amba et puis au lycée Motemampiko, avant de partir pour la Belgique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes la fille du professeur Malou, reconnue comme savant du fait de la hauteur de ses connaissances scientifiques. Est-ce lourd de porter ce patronyme?
Alors, c'est une chance, au contraire. Je remercie tous les jours mon père, chaque fois que j'y pense, de me dire merci, papa, d'avoir été ce que tu as été. C'est, au contraire, une énorme chance parce qu'on se dit, voilà, on a un modèle positif, un modèle que l'on veut atteindre. Et ce qui était bien, c'est que pour mon père, il n'y avait pas de différence fille-garçon. C'est pour ça que ce n'est pas parce que je suis éventuellement une femme. C'était vraiment, voilà, c'était l'idéal qu'il fallait atteindre. Et c'est ça qui nous motive, nous tous les enfants, et moi en particulier, c'est d'essayer d'atteindre au moins la cheville de mon
au moins la cheville.
Au moins la cheville.
Oui, parce que quand on faisait notre briefing, Raïssa Malou, vous m'avez dit que votre père était membre de l'Académie Pontificale des Sciences.
Oui.
Et pour être là-dedans, il faut être coopté. C'est un peu comme l'Académie française.
Oui, pour vous dire, enfin vraiment...
Comment il a fait, lui?
Moi, je suis impressionnée parce que l'Académie Pontificale des Sciences, donc du Vatican, ce sont plusieurs prix Nobel qui se retrouvent dans cette académie. Et donc, ce sont donc des personnes qui ont reconnu la valeur technique, scientifique et même humaine, parce que c'est là aspect important aussi humain du professeur Malou Akalenga, et donc aidé aussi par la RDC. Je veux dire, c'est le pays aussi qui propose la personne. Donc vraiment, c'est là qu'on reconnaît autant la valeur ici que la valeur internationale de notre père. C'est quand même extraordinaire. Vous savez, c'est aussi lui qui a été parmi les membres fondateurs de l'Académie des sciences du tiers-monde. Et d'une académie qui a été créée aussi avec un prix Nobel. Il y avait une dizaine d'Africains qui avaient créé ça, dont mon père. Donc c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire et dont les pères reconnaissaient la valeur et le mérite.
Quels sont les souvenirs que vous avez de ce savant?
Mais je vais vous dire plutôt ce que je voulais vous dire, c'est ce qu'il m'a donné, finalement, ce que j'ai vraiment appris de mon père en ayant vu sa vie enfant et maintenant en regardant finalement sa vie professionnelle qui se faisait en dehors de la maison. Quand on était enfant, on était à la limite pas vraiment conscient finalement de l'aura qu'il avait. C'est vraiment, au-delà de l'amour des sciences, ce qu'il m'a donné, c'est l'amour de la création, donc de tout ce qui existe. Et c'est un amour profond pour mon pays. Ça, c'est vraiment, je le dois vraiment à mon père, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui a marqué sa vie. Vous savez, on lui a proposé plusieurs fois d'aller ailleurs, il aurait pu aller aux États-Unis, etc. Il a toujours dit non. Pour rester travailler, pour rester ici, pour travailler pour son pays. Et ça, c'est vraiment l'exemple pour moi.
Alors, parce que je lisais un article sur vous, vous dites que vous avez deux amours, c'est les sciences et la RDC.
Absolument.
C'est vrai?
C'est vrai. C'est vraiment, je partage vraiment un amour profond pour ces deux domaines-là, quoi. Les sciences, parce que c'est ce qui me permet de comprendre le monde dans lequel je vis, et c'est pour ça que je suis devenue physicienne, et la RDC, parce que c'est vraiment ce qui coule dans mes veines, et c'est ce qui me relie à mon père. Et c'est pour ça que c'est tellement important.
Excusez-moi, est-ce que c'est ça qui vous a décidé de quitter la Belgique pour revenir au pays?
Absolument, parce que je me disais, j'ai le devoir de donner ce que j'ai également reçu. Bon, là, ici, je parle de mon père, mais il faut aussi penser à tous les professeurs que j'ai eus, à toutes ces personnalités que j'ai rencontrées. Et je me suis dit, je ne peux pas rester en dehors du pays sans devoir redonner ça, redonner ce que j'ai moi-même reçu et surtout montrer l'exemple à mes enfants, qui, c'est vrai, bon, sont nés à l'extérieur du pays. Donc, du coup, il faut pouvoir les ancrés dans leur terre, ancrés dans leurs origines. Et donc, c'était pour moi de refaire ce pas pour aussi les générations futures, notamment mes enfants.
Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui vous connaît très bien.
Ah oui.
oui. Qui me dit, non, ce n'est pas une amie d'enfance, même si je la connaissais déjà depuis le Mont Amba. Mm-hmm. Je suis son compagnon de lutte et c'est aussi ma compagne de lutte. Je vous mm-hmm. propose de l'écouter.
Je crois que c'est une des personnes les plus déterminées que j'ai eu à rencontrer de toute mon existence. On se connaît grosso modo depuis l'époque du Mont Amba, donc une vingtaine d'années. On est entré dans la lutte scientifique et universitaire depuis une quinzaine d'années. Nous avons écrit un livre ensemble sur les cours à domicile, cours scolaires, mode d'emploi. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Sa capacité à regarder le monde différemment, à proposer des solutions, notamment vers les jeunes filles, est quelque chose qui m'a toujours épaté. Je suis quelqu'un de généreux, qui faisait partie des personnes qui étaient autour de moi pendant que je faisais ma thèse en droit, même si elle estime que le droit n'est pas une science. Mm-hmm. C'est plutôt quelqu'un qui aime les sciences dures, ou plutôt les sciences exactes. Elle a cette vision d'une femme africaine et d'une femme congolaise forte, avec une capacité dans les sciences. C'est pour ça que depuis 4 ans, elle organise la semaine des sciences et des technologies. Je crois que c'est quelqu'un à qui je confierais facilement les clés d'un établissement universitaire.
J'ai envie de dire waouh.
Merci Madi.
Voilà. C'est Madi Kadimanzouji, docteur en droit, je vous dirais ami. En tout cas,
oui.
C'est quelqu'un qui vous connaît bien.
Très bien,
depuis,
oui, absolument.
Depuis la Belgique. Est-ce que vous reconnaissiez en ces qualités-là? Parce qu'il n'a pas tari des loges. Hein.
Non, mais vraiment, c'est vrai, vraiment. Madi, c'est vraiment un ami. Mon frère, c'est vraiment... il fait partie des personnes dont je suis extrêmement reconnaissante d'avoir rencontré, d'être là avec moi dans ma vie. Il fait partie de ceux qui me motivent, qui me suivent à chaque fois que j'ai une idée folle. Et je suis d'accord avec ce qu'il a dit, modestement.
Oui.
mais oui, il a raison. Je suis effectivement déterminée. Et je veux arriver à faire changer les choses, notamment la perception que les gens ont des sciences et des mathématiques. Vous savez, si vous me dites, mais voilà, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? C'est parce que tous les jours, je rencontre des gens qui me disent, oh là là, moi, les maths, c'est ma bête noire, je déteste ça, etc. Et je me suis dit, non. Je voudrais diminuer ce nombre de personnes. Je dis, on ne va peut-être pas tous devenir mathématiciens, physiciens, mais il faut au moins qu'on se réconcilie avec ces matières. Il faut d'abord qu'on prenne du plaisir avec ça. Et ça, c'est vraiment mon objectif. C'est de donner du plaisir au travers des sciences et des mathématiques.
Alors, merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur les antennes de Radio Capi. Nous recevons Madame Raissa Malou, directrice de l'ASBL Investing in People et chef UTA du projet PECPSU de l'EPSP. Elle est également professeure de sciences et de mathématiques. Alors, nous en parlions un peu de votre enfance au début de cette émission. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme informaticienne dans une banque. Mm-hmm. Et puis, vous avez été aussi assistante. Vous avez décidé de quitter le secteur privé pour vous lancer dans votre propre entreprise. Mm-hmm. Et ça s'appelle, en tout cas la société s'appelait Plénisciences. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'était?
Alors, Plénisciences est une société spécialisée dans le soutien scolaire et les cours particuliers à domicile. Si j'ai décidé de le créer, c'est parce que voilà, quand on est à l'université, souvent les étudiants vous appellent pour donner l'un ou l'autre cours particulier. Et on est toujours buté à ces enfants qui ne sont pas intéressés, qui sont obligés d'être là parce qu'il faut bien avoir un diplôme, il faut bien passer ses examens. Et je trouvais ça vraiment triste. Et je dis, au-delà du fait de réussir ton examen, il faut au moins que tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais. Sinon,
exact.
Pourquoi est-ce que tu le fais? Et donc, le but, c'était de créer une société qui permettait de mettre en relation des scientifiques avec des jeunes pour que nous puissions faire passer notre passion des sciences et des mathématiques. Évidemment, dans l'objectif de créer peut-être, d'avoir la relève qui se crée, qui est de plus en plus de jeunes, parce qu'il y a très peu de jeunes qui font, genre en physique, nous, par exemple, on a vraiment très peu d'étudiants qui sont inscrits dans ces domaines. Et donc, ce serait, susciter des vocations question, mais surtout réconcilier et faire que voilà, ok, tu vas avoir ton diplôme, mais on va au moins faire
et
en sorte que
les mathématiques.
Voilà, que ce soit agréable quand même.
Oui,
quoi.
Oui. Mais, voilà. Mais c'est tellement abstrait en même temps ce que vous enseignez. Comment est-ce que vous allez attirer les gens vers ça? Moi qui vous parle, j'ai horreur des mathématiques. Voilà. C'était ma bête noire à l'époque. Je ne sais pas si vous. Comment vous allez faire pour m'apprendre à aimer les maths?
Mais alors, ça, c'est vraiment ce qui est difficile à l'école. C'est qu'on est obligé de suivre un programme. Voilà, je veux dire, l'enseignant est limité par rapport à un programme. Et donc, il a peur que s'il commençait à peut-être présenter les choses, voilà, en montrant leur application concrète, peut-être en sortant du programme que pour donner le goût, il a peur que, voilà, qu'il n'arrive pas au bout, donc qu'il soit quelque part sanctionné. C'est pour ça que les enseignants sont plus focalisés sur, voilà, on a un programme qu'on doit suivre et puis on vous demande de suivre la chose. Alors que les mathématiques, c'est vrai, c'est un monde abstrait, mais qui s'applique, c'est ça qui est splendide. C'est que tous les phénomènes physiques, donc, que vous avez concrètement, peuvent s'exprimer en termes mathématiques. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement concret, puisque ça fait toujours référence à quelque chose de concret. C'est pour ça que j'ai fait physicienne et pas mathématicienne, par exemple. Parce que ce qui compte, oui, pour moi, c'est le concret. Oui. C'est vraiment, voilà, dans la vie de tous les jours, c'est comprendre les lois et pas juste rester dans un monde abstrait.
Mais comment vous dites ça à ces élèves qui ont horreur des mathématiques, qui n'ont pas envie de suivre ces cours? Comment est-ce que vous les approchez pour qu'ils puissent justement apprendre à aimer les mathématiques?
On peut faire référence à des histoires qu'ils connaissent. On peut faire référence à des livres, par exemple Star Wars, qui est vraiment une très bonne chose parce que c'est de la science-fiction. Voilà, on peut faire référence vraiment à notre patrimoine. Prenons par exemple le bâton d'Ishango, qui est la plus vieille preuve d'une intelligence mathématique. Bon, si vous le dites peut-être à un Belge, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais si vous rentrez comme ça ici avec nous les Africains, nous les Congolais, déjà à ce moment-là, vous attirez son attention. Vous lui dites, mais tu sais, ce ne sont pas des mathématiques qui ont été imposées, qui viennent d'ailleurs, mais elles se développent dans la culture des gens. Alors, moi, aujourd'hui, si je devais recommencer à donner cours, je reprendrais par exemple les tapis Luba, qui sont très mathématiques, et je travaillerais avec ça, les enfants. C'est comme ça que je m'y prends. Je prends quelque chose de la vie de tous les jours d'un enfant, je pars de ça que pour déjà attirer son attention, après on peut installer les notions de mathématiques avec. Et ça marche mieux.
Mais comment est-ce que Plénisciences a été accueillie là-bas en Belgique?
Très très bien, ça vraiment, jusqu'aujourd'hui, je ne sais plus m'en occuper maintenant, mais je continue à recevoir plein de coups de fil de personnes qui souhaitent être aidées. Donc ça a vraiment très bien marché, parce que le marché du soutien scolaire est un marché important en Europe, hein, la France et la Belgique en particulier. Ça répond à un besoin, surtout quand il y a des examens d'État ici, mais le bac par exemple français, etc. Donc il y a une pression, oui. On a une obligation de réussite, et donc forcément ça crée un marché de soutien scolaire, parce que évidemment tous les parents veulent que les enfants réussissent, quoi. Mais en tout cas, je peux le dire, mais tout modestement, que vraiment les étudiants qui sont passés par chez moi ont vraiment pris du plaisir, et je suis content d'avoir formé des générations de vétérinaires, de médecins, de kinés qui se sont réconciliés avec ces matières en passant par les cours de Plénisciences.
Et en termes de chiffres, c'est quoi? C'est des centaines d'étudiants?
C'est des milliers.
Des milliers d'étudiants.
Des milliers d'étudiants qui sont passés chez Plénisciences.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous décide de quitter la Belgique pour venir en RDC?
Disons que, à ce moment-là, j'ai écrit des livres de mathématiques. Et de physique, donc c'était juste pour mes étudiants. Et donc ce que je voulais en fait, c'était justement les apporter ici, voir dans quelle mesure le système éducatif ici pouvait incorporer ces livres de sciences et de maths. Et je voulais justement connaître maintenant, voilà, quel était l'état de l'enseignement des sciences et des mathématiques en RDC. Et donc en 2011, je fais le premier pas, je viens présenter les livres, et à ce moment-là, je me rends compte de la réalité des choses, et je me dis, finalement, peut-être que la Belgique a peut-être moins besoin que moi.
Que la RDC.
Mm-hmm. Donc il faudrait peut-être faire un shift et revenir ici, quoi.
Et quand vous arrivez, parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y a peut-être 3-4 ans, je vous ai reçu dans une émission où vous me disiez que le niveau de l'enseignement dans notre pays est bon. Mm-hmm. Alors que, en tout cas, une grande opinion pense que non, que notre niveau d'enseignement est devenu obsolète.
Alors, il faut bien voir les choses. Prenons simplement d'un point de vue mathématique. On est très technique. Vous savez, il y a énormément de bons mathématiciens congolais. Malheureusement, ils partent. Je veux dire, ici, par exemple, on a Jonathan Mboyo Ezole qui a été nommé au Next and Shine Fellowship, donc qui est un prix, en fait, qui va être décerné en mars 2018 pour ses travaux en mathématiques. Donc, en fait, on est techniquement très bon. Le problème avec notre enseignement, c'est que justement, il reste théorique. C'est-à-dire qu'on était techniquement bon, mais vous ou les industriels se disent, oui, mais ok, mais à quoi ça va servir? Comment ça s'applique? Comment ça nous permet de mieux nous connaître, etc. Et là, il y a peut-être le bas blesse à ce niveau-là. Donc, on va avoir quelques élites, quelques perles, mais la majorité des gens, on va rester dans un enseignement théorique et donc complètement déconnecté de la vie, en fait. Quoi. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est justement reconnecter, comme je dis, c'est faire rentrer le village dans l'école. C'est vraiment faire reconnecter les enseignements avec les réalités de la vie. Ça, c'est ce qui est important que nous faisons.
Vous me parliez tout à l'heure, Aïssa Malou, des tapis Luba qui peuvent servir dans les mathématiques. Mm-hmm. Vous voulez du concret. Vous voulez réconcilier les gens avec, en tout cas les élèves ou les étudiants, avec les sciences. Mm-hmm. Vous parliez des mathématiques africaines. Qu'est-ce que c'est?
Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les mathématiques, en fait, sont un produit culturel. Contrairement à ce qu'on... Enfin, on ne voit que la musique, etc. Mais il est un fait que toutes les sociétés, tous les peuples développent les mathématiques de manière tout à fait propre à leur société. Les mathématiques que l'on a largement adoptées dans nos écoles se sont développées telles quelles dans une certaine société et se sont généralisées. Elles ont atteint le niveau que l'on connaît. Mais il faut savoir que chaque société le fait. En fait, c'est un domaine qu'on appelle l'ethnomathématique. L'ethnomathématique consiste en fait à étudier comment est-ce que les mathématiques s'expriment en particulier dans les sociétés. Donc prenons par exemple simplement la musique. Mais la musique, c'est du rythme. Et le rythme, ce sont des mathématiques. Donc vous voyez, Ce sont tous ces éléments-là qu'on a tendance à oublier. Prenons par exemple la plupart des jeux, le jeu Manka. Maintenant, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça chez nous aussi. Ce sont des jeux qui sont des jeux statistiques. C'est-à-dire que les joueurs doivent faire tout un tas de calculs statistiques et des calculs rapides. C'est parce que nos mathématiciens ne s'intéressent pas à ça. Et nous, on n'y voit qu'un jeu. Alors que si nos mathématiciens s'y intéressaient, on aurait de la matière à faire travailler nos enfants dans l'école et ça les rendrait plus intéressants. Donc, notamment, moi, je milite pour que nos universités, en fait, s'intéressent à l'ethnomathématique. Mathématiques s'intéressent aux mathématiques telles qu'elles s'expriment dans nos différentes cultures, en fait.
Alors, Raïssa Malou, vous organisez la semaine de la science et des technologies. Vous en êtes à votre 4e édition. Okay. La 5e est prévue pour l'an prochain, plus précisément du 11 au 14 avril 2018. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce projet?
Ce projet, donc, 4e édition, donc, il a commencé en 2014. Là, j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que quand je suis arrivée en 2014 ici, le présenter au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, on m'a un peu regardée en se demandant qu'est-ce qu'elle veut faire celle-là. On est là. Oui. Parce qu'on n'avait pas une idée de ce que ça pouvait être une fête des sciences et des technologies. Mais là où je suis vraiment très reconnaissante, c'est que même s'ils n'en avaient pas l'idée, ils m'ont soutenue et ils ont suivi. Je veux dire, autant le ministère de l'EPSP que celui de la recherche scientifique que de l'enseignement supérieur universitaire. L'idée en fait de cet événement, c'est de donner le goût des sciences et des mathématiques aux jeunes et au grand public. Donc ce n'est pas seulement lié à ceux qui sont dans un cursus scolaire ou académique, voilà. Oui. Et c'est de promouvoir les savoirs et savoir-faire. En introduction de votre émission, vous disiez, voilà, l'émission Étoile est là que pour promouvoir les compétences congolaises. Mais le problème se pose aussi dans les domaines techniques et scientifiques. On pense que la RDC est un no man's land en matière de recherche scientifique. On était pourtant à la pointe, je veux dire, c'est quand même chez nous qu'il y a eu le premier réacteur nucléaire d'Afrique. Je crois que tous les pays d'Afrique venaient étudier dans nos universités, donc à l'université de Kinshasa. Donc on est à la pointe et on a l'impression que voilà, qu'avec les années, les choses ont disparu. Mais c'est pas vrai. Il y a de vraies compétences, il y a toujours de la recherche qui se fait, mais qu'il y a un déficit d'information, de communication. Donc l'idée, c'était de promouvoir justement ces savoirs et savoir-faire congolais et africains. Et donc, la semaine de la science, en fait, se structure en 4 pôles d'activité, si vous voulez, très rapidement. Ce que nous faisons, c'est qu'on fait des animations scientifiques. Donc, on installe le village des sciences au niveau de l'Institut de la Gombe de Kinshasa. Oui. On fait des animations scientifiques pour faire, en fait, des sciences en s'amusant et surtout faire des sciences avec du matériel qui soit facile, qu'on retrouve dans la vie tous les jours. Parce qu'on ne veut pas avoir cet argument qui dit il faut de l'argent pour faire des sciences. Pour faire de la recherche scientifique, c'est sûr. Mais pour donner le goût des sciences, on n'a pas besoin d'investir énormément. Oui. Voilà. Et donc, c'est pour montrer aux enseignants qu'ils peuvent utiliser utiliser les objets de la vie de tous les jours que pour le faire. Donc on se fait vraiment un devoir de rester à un niveau qui est accessible à tout le monde. Et ce que l'on fait, c'est qu'on forme des élèves de l'Institut de la Gombe qui deviennent nos animateurs scientifiques. Et ça, c'est vraiment la force de la semaine de la science.
Parce les élèves de quelle classe?
De la troisième secondaire à la sixième secondaire. Oui. Et lorsque les autres élèves, les enseignants ou les parents viennent et rencontrent ces enfants, se disent « Waouh, si eux, ils sont capables de faire ça, ben, c'est que nous, on peut le faire aussi. » Le deuxième pôle d'activité, ce sont des conférences. Donc, ils sont donnés par différents spécialistes, donc justement dans l'objectif de promouvoir nos savoirs et savoir-faire. Et donc, c'est vraiment de tous les domaines. Je veux dire, on avait le professeur Loibéa qui était là ici en 2017, qui nous a parlé parce que, comme c'était la communication, donc c'est au niveau des cerveaux, parce que c'est un spécialiste, c'est un neurologue, donc qui est venu et qui a eu énormément de succès auprès des élèves et des visiteurs. Nous avons eu le professeur Mabi Mulumba qui était venu en 2016 pour animer, parce que forcément, je veux dire, on ne peut pas développer le pays sans industrialisation. Et donc voilà, on fait venir des spécialistes que pour qu'ils viennent parler de leur recherche, donc informer les gens, susciter des vocations. Donc là, ce sont les conférences. Le troisième aspect, c'est des exposants. Donc la partie d'exposition, là, nous faisons venir des universités, des centres de recherche, des sociétés, etc., qui viennent présenter leurs services, présenter leurs produits aux jeunes. Et donc là, par exemple, l'année passée, le stand de l'Institut géographique du Congo a eu un énorme succès avec ses drones, parce que les enfants n'étaient absolument mais pas au courant, enfin les élèves qui sont venus n'étaient pas au courant, mais qu'est-ce qu'on fait à l'Institut géographique du Congo, quoi. Et lorsqu'ils l'ont vu, mais ils étaient épatés. Et donc, et moi, c'est ce que je trouve magnifique et faudra venir en avril 2018, c'est vraiment de voir comment les yeux pétillent et l'engouement des élèves, des visiteurs lorsqu'ils viennent au village des sciences.
Je sais,
c'est vraiment magnifique.
J'ai déjà fait un reportage justement à l'Institut
de la Gombe,
au village des sciences. Géographique. Ah, ouais. Et c'est juste magnifique de savoir que nous avons la technologie, nous avons les techniciens dans ces matières-là, mais que malheureusement, on ne les connaît
on
pas.
On ne les connaît pas.
On les ignore.
Exactement.
Parfois.
Et un événement pareil, c'est justement l'occasion de leur donner de la visibilité et donc augmenter la fierté de nos compatriotes et des visiteurs. L'année, par exemple, l'année passée, on avait l'Agence internationale à l'énergie atomique de Vienne qui est venue à la Semaine des sciences. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, quoi. Mm-hmm. Ils sont venus participer, ils ont fait une conférence et le représentant, lorsqu'il a vu, il s'est dit « Waouh, c'est impressionnant ce que vous faites ». Toujours pour la petite anecdote, cette année-ci, à la 39e conférence générale de l'UNESCO, le ministre de l'EPSP a annoncé que la RDC organise tous les ans la Semaine de la Science, dont la 5e édition aura lieu en avril 2018. Il a été félicité par la présidente de la conférence générale. Donc c'est vraiment, c'est notre initiative, c'est-à-dire nous tous Congolais. La quatrième activité, très rapidement, c'est le concours. C'est un concours national qu'on organise donc depuis 2016, qui lui permet de mobiliser l'ensemble des provinces de la RDC pour qu'elle aussi s'arrête. Parce que voilà, les gens nous disent toujours, mais voilà, c'est toujours Kinshasa qui bénéficie de tout. Et donc l'idée, c'était justement d'ouvrir ça aux autres provinces, donc de permettre aux jeunes de le faire. Et là, quand même, je vous dis un mot sur le concours 2017. Le concours s'appelait le concours J'aime lire. C'est, on avait demandé aux jeunes de nous écrire une œuvre de science-fiction ou de vulgarisation scientifique. On a donc reçu des œuvres qui venaient de quasi toute la RDC. Et nous, les jurys, ça nous a donné l'opportunité de découvrir notre pays au travers des histoires des enfants. Des jeunes. Et ça, je vous assure, ça vous marque encore plus. Et vous voyez, et c'est là que vous voyez vraiment la séparation dans notre pays, où on a par exemple tout l'est du pays a forcément beaucoup traité les problèmes de guerre. Inévitablement, tandis que l'Ouest, bah, c'était plutôt fort Internet, etc. Et ils se sont vraiment projetés dans l'avenir. Et ce que j'ai trouvé vraiment magnifique, et là c'est parce que je suis à Radio Capi que je tiens à le dire, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune haine dans les récits de ses enfants. Même quand il parlait de situations qui étaient vraiment dramatiques, voilà, la paix, toujours il se demande, voilà, c'était comment peut-on arriver à la paix au travers des sciences et des technologies? Comment peut-on arriver à créer plus de richesses, à prospérer dans notre pays, notamment au travers des sciences et des technologies? Ça, c'est vraiment en avril 2018, le livre avec les finalistes du concours J'aime lire sera présenté officiellement, et ce sont vraiment des œuvres magnifiques. Certaines œuvres ne s'y retrouvent pas parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre, mais je me pose toujours la question, comment vais-je quand même leur donner de la visibilité, parce qu'elles méritent d'être lues.
Merci à vous tous qui nous rejoignez pour la suite du magazine Étoile. Nous recevons Madame Raïssa Malou, directrice de l'ISBL Investing in People et chef UTA du projet PECPESU de l'EPSP. Elle est également professeure des sciences et de mathématiques. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de votre travail au sein du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Mm-hmm. Quel est ce projet au nom tellement difficile à prononcer
pour hein? tout le monde? Alors, le PECPESU, oui. C'est le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire.
Qu'est-ce que c'est?
Oh là là. Oui. Alors, en fait, donc, c'est un projet qui concerne deux ministères. Donc, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est financé par la Banque mondiale et son objectif, en fait, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement des sciences et des mathématiques, voilà, hein, d'où le lien, là, et de renforcer la pertinence de l'enseignement technique et professionnel. Pour le projet PECPESU, moi je m'occupe justement du volet enseignement secondaire général, c'est-à-dire que c'est moi qui suis occupée d'améliorer la qualité de l'enseignement des sciences et des maths, en tout cas de piloter les différentes activités relatives à ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que le projet PECPESU va en fait est occupé à faire la modernisation des programmes, parce que nos programmes étaient obsolètes, il y en avait par exemple qui dataient de 1970 encore, hein, wow. utilisés, voilà, hein. Mm-hmm. Donc ils nécessitaient évidemment une réadaptation, donc on est en train de les moderniser selon une approche plus concrète, donc l'approche par situation. Donc le but, c'est justement de donner du sens à ces savoirs. C'est ce que je vous disais, de ramener le village dans l'école, ramener la vie dans l'école. Donc en fait, ce qui compte pour nous, dans le cas de cette approche, ce n'est pas ce que l'enfant sait, mais c'est ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il sait.
Exact. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas... c'est à la fois avoir le savoir c'est et ça. Puis savoir ce qu'on peut faire de ce savoir-là.
Exactement.
Alors votre ami Madi Kadimanzouji que nous avons eu au téléphone mm-hmm. tout à l'heure, qui mm-hmm. témoignait, disait que vous avez aussi un engagement particulier pour la jeune fille. Et est-ce que vous voulez montrer, vous, Raïssa Malou, mm-hmm. que les femmes peuvent être autant scientifiques, si pas plus, que les hommes?
Mais vous savez, moi je suis toujours étonnée qu'il y ait ce débat fille, garçon, ben je me dis, mais tiens, moi je ne me suis jamais perçue, enfin, je n'ai jamais eu, bon, évidemment, forcément, en physique par exemple, c'est vrai qu'on n'était que 3 filles sur 20 élèves, hein, bon, c'est pas beaucoup. Mais je pense qu'il faut donner des modèles. Bon, moi je me suis identifiée à mon père, mais voilà, c'était pas au-delà du sexe, c'était au-delà de ce qu'il représentait. Oui, voilà, oui. C'était au-delà du genre, c'était vraiment ce qu'il représentait. Et donc il aurait été une femme, un martien, etc. Qu'importe, quoi. Mais vous savez, les femmes n'ont eu que très très tard le droit d'abord d'aller à l'université et de faire les sciences. En France, quand une femme rentrait dans une faculté des sciences, les garçons criaient dehors, la science se fait entre les femmes. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai écrit un livre, Physicien et physicienne d'Archimède, au 19e siècle, écrit avec ma sœur, Malou Mano. Et je l'ai écrit pourquoi? Parce qu'en fait, quand je donne cours, mes étudiants se demandent, mais enfin, c'est quoi ces gens-là? Einstein, Maxwell, Newton. Ah oui. Mais qui sont ces gars? Et moi, ce que je voulais, c'était leur écrire un livre qui permet de montrer, mais vous savez, ce sont des gens comme vous, avec leurs problèmes, avec leurs désirs, avec. Et je prends les livres, nos manuels, et je me rends compte qu'on ne voit que des hommes. À part Marie Curie, évidemment, hein, parce qu'on n'avait pas le choix que d'en parler. Après deux prix Nobel, même ces hommes devaient, hein, qui nous bloquent, devaient quand même se dire, bon, on est obligé de parler de Marie Curie. Oui. Mais il n'y avait pas de femmes. Du coup, j'ai rajouté un chapitre que j'ai intitulé « Mais où sont passées les femmes ?» Et j'ai récupéré toute une série de figures féminines. Le premier programme informatique a été écrit par Ada Lovelace, c'était une femme. Et donc, j'ai repris toute une série de figures que pour donner des modèles à ces jeunes filles. Et à la semaine, la science, ce qui est bien, c'est que les professeurs qui travaillent avec moi, ce sont toutes des femmes.
D'accord.
Donc, du coup, parce que justement, c'est important que ces stéréotypes-là tombent et que les filles aient des modèles et que les garçons cessent peut-être de penser que voilà, le physicien enfin, ou le scientifique classique, si on vous pose la question, on va peut-être dire que c'est un blanc, un homme, etc. Mais non, ce sont aussi des Africains, ce sont des Noirs, ce sont des femmes, etc. Donc ce sont tous des stéréotypes qu'il faut pouvoir faire tomber. Et on le fait avec le travail que nous faisons.
Est-ce que vous-même, Raïssa Malou, vous vous présentez comme étant un modèle?
Bah, en tout cas, si je le suis, c'est vraiment une bonne chose. Je veux dire, je pense que ça fait plaisir à nos compatriotes.
Quand vous citez comme tel.
Oui, enfin, c'est bien, c'est une bonne chose, parce qu'on a besoin de modèles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir papa, et c'est mon modèle, et c'est ce qui me motive. Et donc, si je peux être un modèle pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment magnifique.
Et si vous étiez une devise?
Fais ce que tu aimes et prends du plaisir à le faire.
Votre rêve le plus cher?
Ce serait qu'il y ait un lieu permanent qui soit dédié à la promotion des sciences et des technologies en RDC et on est en train de travailler pour que ce rêve se réalise.
J'espère qu'on y arrivera. Sincèrement, merci à vous, Raïssa Malou.
Merci beaucoup.
Vous étiez notre invitée étoile de cette semaine. Je rappelle que vous êtes professeure des sciences et de mathématiques. Vous êtes également directrice de l'ASBL Investing in People et chef UTIA du projet PECFESU de l'EPSV. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à Jean-Marc Matou qui a contribué à la réalisation de celle-ci, était au micro, Nana Bolodjaï Aliomoto. On se retrouve avec vous la semaine prochaine.